Les mystères du Dalf par Anne Radcliffe. Chapitre 42. Quelques circonstances singulières vinrent distraire Émilie de ses chagrins et excitèrent en elle autant de surprise que d'horreur. Peu de jours après la mort de la signora Laurentini, le testament de cette dame fut ouvert en présence des supérieurs du couvent. On trouva que le tiers de ses propriétés était légué aux plus proches parents de la marquise de Villeroy, et que ce legs regardait Émilie. L'abbesse depuis longtemps connaissait le secret de sa famille, mais Saint-Aubert, qui s'était fait connaître aux religieux qui l'avaient assisté, avait exigé que ce secret fût à jamais dérobé à sa fille. Pendant les discours échappés à la signora Laurentini, la confession étrange qu'elle fit à ces derniers moments furent jugées nécessaires à l'abbesse d'entretenir sa jeune amie sur un sujet qu'elle n'avait jamais entamé. Dans ce dessein, elle avait demandé à la voir le lendemain du jour où elle avait visité la religieuse. L'indisposition d'Émilie avait empêché celle-ci d'aller au couvent, mais après l'ouverture du testament, elle fut mandée de nouveau, et s'étant rendue à Sainte-Claire, elle y apprit des détails qui l'affectèrent beaucoup. Comme le récit que fit l'abbesse supprimait plusieurs particularités qui peuvent intéresser le lecteur, et que l'histoire de la religieuse est liée avec celle de la marquise, nous omettrons la conversation du parloir, et nous joindrons à notre relation une histoire abrégée de la défunte sœur. Histoire de la signora Laurentini, dit Udolpho. Elle était fille unique et héritière de l'ancienne maison d'Udolph, dans le territoire de Venise. Le premier malheur de sa vie, celui qui fut la source de toutes ses infortunes, fut que ses parents, dont les soins auraient dû modérer la violence de ses passions et lui apprendre à les gouverner elle-même, ne firent que les fomenter par une coupable indulgence. Ils chérissaient en elle leurs propres sentiments. Soit qu'ils louassent, soit qu'ils reprissent leur fille, c'était au gré de leur inclination, et non d'une tendresse raisonnée. L'éducation ne fut pour elle qu'un mélange de faiblesse et d'opiniâtreté qui l'irrita. Les conseils qu'on lui donnait devinrent autant de contestations où le respect filial et l'amour paternel étaient également oubliés. Mais comme cet amour paternel revenait toujours le premier et se désarmait le plus aisément, la signora croyait avoir vaincu, et l'effort que l'on faisait pour vaincre ses passions leur prêtait une force nouvelle. La mort de son père et de sa mère la laissa livrer à elle-même dans l'âge si dangereux de la jeunesse et de la beauté. Elle aimait le grand monde, s'enivrait du poison de la louange et méprisait l'opinion publique quand elle contredisait ses goûts. Son esprit était vif et brillant. Elle avait tous les talents, tous les charmes dont se compose le grand art de séduire. Sa conduite fut telle que pouvait le faire présager la faiblesse de ses principes et la force de ses passions. Parmi ses nombreux soupirants fut le marquis de Villeroy. En voyageant en Italie, il vit Laurentini à Venise. Il devint passionné pour elle. La signora fut éprise à son tour de la figure, des grâces, des qualités du marquis, le plus aimable des seigneurs français. Elle sut cacher les dangers de son caractère, les tâches de sa conduite, et le marquis demanda sa main. Avant la conclusion de ses noces, elle alla au château d'Udolph. Le marquis l'y suivit. Là, moins réservée, moins prudente peut-être qu'elle n'avait été jusqu'alors, elle donna lieu à son amant de former quelques doutes sur la convenance des nœuds qu'il était prêt à serrer. Une information plus exacte le convainquit de son erreur, et celle qui devait être sa femme ne devint que sa maîtresse. Après avoir passé quelques semaines à Udolph, il fut tout à coup rappelé en France. Il partit avec répugnance, le cœur rempli de la signora, avec laquelle pourtant il avait su différer de conclure son mariage. Pour l'aider à soutenir une telle séparation, il lui donna sa parole de revenir célébrer ses noces, aussitôt que ses affaires lui en laisseraient la liberté. Consolé par cette assurance, Laurentini le laissa partir. Bientôt après, Montoni, son parent, vint à Udolph et renouvela des propositions que déjà elle avait rejetées et qu'elle rejeta encore. Ses pensées se tournaient toutes vers le marquis de Villeroy. Elle éprouvait pour lui tout le délire d'un amour italien, fomenté par la solitude dans laquelle elle s'était confinée. Elle avait perdu le goût des plaisirs et de la société. Son unique jouissance était de contempler et de baigner de larmes un portrait du marquis. Elle visite les lieux témoins de leur félicité et épanche son cœur dans ses lettres. Elle comptait les jours, les semaines qui devaient s'écouler avant l'époque probable de son retour. Cette période passa. Les semaines qui suivirent devinrent un poids insupportable. L'imagination de Laurentini, absorbée par une seule idée, se dérangea. Son cœur était dévoué à un unique objet. La vie lui devint odieuse quand elle crut avoir perdu cet objet. Plusieurs mois se passèrent sans qu'elle reçût un seul mot du marquis. Ses jours se partageaient entre les violences, les accès d'une passion furieuse et la sombre langueur du plus noir désespoir. Elle s'isola de tout. Elle s'enfermait des semaines entières sans parler à personne, excepté à sa confidente. Elle écrivait des fragments de lettres, relisait celles qu'autrefois elle avait reçues du marquis, pleurait sur son portrait et lui parlait des heures entières, tantôt pour l'accabler de reproches, tantôt pour l'accabler d'amour. À la fin, on répandit autour d'elle le bruit que le marquis s'était marié en France. Déchirée par la jalousie, par l'amour, par l'indignation, elle prit le parti d'aller secrètement en ce pays, et si le fait était vrai, elle prétendait assouvir sa vengeance. Elle ne dit qu'à sa confidente le projet qu'elle avait formé, et elle l'engagea à la suivre. Elle rassembla tous ses diamants, et ceux qu'elle avait recueillis de toutes les branches de sa famille. La valeur en était immense. On les porta dans une ville voisine. Laurentini les y reprit, et accompagnée d'une seule femme, elle se rendit secrètement à Livourne et s'y embarqua pour la France. À son arrivée en Languedoc, elle sut que le marquis de Villeroy était marié depuis quelque temps. Son désespoir la priva de sa raison. Elle formait, elle abandonnait tour à tour l'horrible projet de poignarder le marquis, son épouse et elle-même. Elle s'arrêta enfin à l'idée de se présenter devant lui, de lui reprocher sa conduite et de se tuer en sa présence. Mais quand elle l'eut revu, quand elle eut retrouvé le constant objet de ses pensées et de sa tendresse, le ressentiment fit place à l'amour. Le courage lui manqua. Le conflit de tant d'émotions contraires la rendit tremblante, et elle s'évanouit à ses pieds. Le marquis ne fut pas à l'épreuve de tant de beauté et de sensibilité. Toute l'énergie d'un premier sentiment se réveilla. La raison, non l'indifférence, avait en lui combattu sa passion. L'honneur ne lui avait pas permis d'épouser la signora. Il avait cherché à se vaincre. Il avait cherché une compagne pour laquelle il n'avait que de l'estime, de la considération et une affection raisonnable. Mais la douceur, les vertus de cette femme aimable, ne purent le consoler d'une indifférence qu'elle cherchait vainement à cacher. Il soupçonnait depuis quelque temps que son cœur était engagé à un autre, lorsque Laurentini arriva en Languedoc. Cette artificieuse italienne connut bientôt l'empire qu'elle avait repris sur lui. Calmée par cette découverte, elle se détermina à vivre et à multiplier les artifices pour conduire le marquis au forfait diabolique qu'elle croyait propre à assurer son bonheur. Elle suivit son projet avec une dissimulation profonde et une patience imperturbable. Elle détacha entièrement le marquis de son épouse. Sa douceur, sa bonté, sa froideur, si opposée aux manières empressées d'une Italienne, eurent bientôt cessé de lui plaire. La signora en profita pour réveiller en lui la jalousie de l'orgueil, car il ne pouvait plus sentir celle de l'amour. Elle alla jusqu'à lui désigner la personne pour qui elle affirmait que la marquise le trahissait. Laurentini avait exigé le serment que jamais le rival du marquis ne serait l'objet de sa vengeance. Elle pensait qu'en la restreignant ainsi d'un côté, elle lui donnerait de l'autre plus d'atrocité et de violence. Elle songea que le marquis en serait plus porté à participer à l'acte horrible qui devenait indispensable à ses desseins et devait anéantir l'obstacle qui semblait seul empêcher son bonheur. L'innocente marquise observait avec une extrême douleur le changement de son époux envers elle. En sa présence, il était pensif et réservé. Sa conduite devenait austère et même dure. Il la laissait en larmes, et pendant des heures entières elle pleurait sur sa froideur et faisait des projets pour regagner son affection. Sa conduite l'affligeait d'autant plus qu'elle avait épousé le marquis uniquement par obéissance. Elle en avait aimé un autre, et ne doutait pas que son propre choix n'eût rendu son bonheur certain. Laurentini, qui ne tarda pas à le découvrir, en fit près du marquis un emplusage. Elle lui suggéra tant de preuves apparentes sur l'infidélité de sa femme que, dans l'excès de sa fureur et le ressentiment de l'outrage qu'il croyait avoir reçu, il prononça l'arrêt de sa mort. On lui donna un poison lent, et la marquise mourut victime d'une jalousie habile et d'une coupable faiblesse. Le triomphe de Laurentini fut court. Ce moment qu'elle avait regardé comme devant combler tous ses vœux devint le commencement d'un supplice qu'elle endura jusqu'à sa mort. La soif de la vengeance, premier mobile de son atrocité, fut aussitôt éteinte que satisfaite, et la laissa en proie à une pitié, à des remords inutiles. Les années de bonheur qu'elle s'était promises avec le marquis de Villeroy en eussent sans doute été empoisonnées. Mais il trouva aussi le remords dans l'accomplissement de sa vengeance, et sa complice lui devint odieuse. Ce qui lui avait paru une conviction lui parut alors s'évanouir comme un songe, et il fut surpris, après que sa femme eut subi son supplice, de ne trouver aucune preuve du crime pour lequel il l'avait condamnée. En apprenant qu'elle expirait, il avait senti tout à coup la persuasion intime de son innocence, et l'assurance solennelle qu'elle-même lui en donna n'ajouta rien à celle qui le pénétrait. Dans la première horreur du remords et du désespoir, il voulait se livrer lui-même à la justice, avec celle qui l'avait plongé dans l'abîme du crime. Après cette crise violente, il changea de résolution. Il vit une fois Laurentini, et ce fut pour la maudire comme l'auteur détestable de ce forfait. Il déclara qu'il n'épargnait sa vie que pour qu'elle consacrât ses jours à la prière et à la pénitence. Accablée du mépris et de la haine d'un homme pour qui elle s'était rendue si coupable, frappée d'horreur pour le crime inutile dont elle s'était souillée, la signora Laurentini renonça au monde, et victime effrayante d'une passion effrénée, elle prit le voile à Sainte-Claire. Le marquis partit du château de Blangy et n'y revint jamais. Il tâcha d'étourdir ses remords dans le tumulte de la guerre et les dissipations de la capitale. Ses efforts furent vains. Un nuage impénétrable paraissait l'entourer. Ses plus intimes amis ne pouvaient se l'expliquer, et il mourut enfin dans des tourments presque égaux à ceux de Laurentini. Le médecin qui avait observé l'état de la marquise après sa mort avait été engagé au silence à force de présents. Les soupçons de quelques domestiques se bornèrent à un murmure sourd, et jamais cette affaire n'avait été approfondie. Si ce murmure parvint au père de la marquise, si le défaut de preuve l'empêcha de poursuivre le marquis, c'est ce qu'on ne saurait assurer. Un fait certain, c'est que sa famille le regretta sincèrement, et surtout M. Saint-Aubert, son frère, car tel était le degré d'alliance qui existait entre le père d'Émilie et la marquise. Il soupçonna le jour de sa mort. Immédiatement après la mort de cette sœur bien-aimée, il écrivit au marquis et reçut de lui plusieurs lettres. Le sujet n'en fut pas connu, mais sans doute elles avaient un rapport à elle. Ces lettres, celles de la marquise qui confiait à son frère la cause de son malheur, composa les papiers que Saint-Aubert avait ordonné de brûler. L'intérêt, le repos d'Émilie, lui avait fait désirer qu'elle ignorât cette tragique histoire. L'affliction que lui avait causée la mort si prématurée d'une sœur chérie l'avait empêchée de prononcer jamais son nom, excepté à Madame Saint-Aubert. Craignant surtout la vive sensibilité d'Émilie, il lui avait laissé ignorer totalement et l'histoire et le nom de la marquise et la parenté qui existait entre elles. Il avait exigé le même silence de sa sœur, Madame Chéron, et elle l'avait rigoureusement observé. C'était sur quelques lettres de la marquise qu'en partant de la vallée, Émilie vit pleurer son père. C'était à son portrait qu'il avait fait de si tendres caresses. Une mort si cruelle peut expliquer l'émotion qu'il témoigna lorsque voisin la nomma devant lui. Il voulut être enseveli près du monument des Villeroy, où étaient déposés les restes de sa sœur. Le mari de celle-ci était mort dans le nord de la France et on l'y avait enterré. Le confesseur qui assista Saint-Aubert à son lit de mort le reconnut pour frère de feu la marquise. Par tendresse pour Émilie, Saint-Aubert lui conjura de lui cacher cette circonstance et fit demander la même grâce à l'abbesse en lui recommandant sa fille. Laurentini, en arrivant en France, avait caché très soigneusement son nom. Quand elle entra dans le couvent elle-même, pour mieux déguiser sa véritable histoire, fit circuler celle qu'avait crue sœur Françoise. Madame l'abbesse n'était point au couvent quand elle avait fait profession, et toute la vérité ne lui était pas connue. Le cruel remords qui oppressait Laurentini, le désespoir d'un amour frustré, l'amour qu'elle conservait pour le marquis avait égaré son esprit. Après les premières crises, une sombre mélancolie s'empara d'elle, et fut rarement, jusqu'à sa mort, interrompue par des accès violents. Durant plusieurs années, son seul plaisir fut d'errer la nuit dans les bois. Elle portait un luth et s'y joignait souvent la mélodie de sa charmante voix. Elle répétait les plus beaux airs de l'Italie, avec l'énergique sentiment qui remplissait constamment son cœur. Le médecin qui prenait soin d'elle recommanda au supérieur de tolérer ce caprice, comme le seul moyen de la calmer. On souffrait que la nuit elle parcourut les bois, suivie de la seule femme qu'elle avait amenée d'Italie. Mais comme cette permission blessait la règle, on la tint secrète. Et cette musique mystérieuse, liée à tant d'autres circonstances, fit répandre le bruit que le château et son voisinage étaient fréquentés par des revenants. Avant l'égarement de sa raison, et avant de faire ses vœux de religieuse, elle avait fait un testament. La ressemblance d'Émilie et de sa malheureuse tante avait été souvent observée par Laurentini. Mais ce fut surtout à l'heure de sa mort, au moment même où sa conscience lui montrait sans cesse la marquise, que cette ressemblance la frappa, et que dans son délire, elle crut voir la marquise elle-même. Elle osa affirmer en recouvrant ses sens qu'Émilie devait être la fille de cette dame. Elle en était convaincue. Elle savait que sa rivale, en épousant le marquis, lui préférait un autre amant. Elle ne faisait aucun doute qu'une passion déréglée, nue comme la sienne, conduit la marquise à quelque égarement. Cependant, le crime que, d'après des aveux mal compris, Émilie supposait avoir été commis par Laurentini dans les murs même d'Udolphe, n'avait jamais eu lieu. Émilie avait été trompée par le spectacle affreux dont elle avait eu tant d'effroi. Et c'était ce spectacle qui d'abord lui faisait attribuer les remords de la religieuse à un meurtre exécuté dans le château. On peut se souvenir que dans une chambre à Udolphe était un grand voile noir, dont la situation avait piqué la curiosité d'Émilie. Le voile cachait un objet qui la remplit d'horreur. En le soulevant, au lieu d'un tableau, elle vit dans l'enfoncement une figure humaine, dont les traits défigurés avaient la pâleur de la mort. Elle était couverte d'un linceul, et couchée tout de son long dans une espèce de tombeau. Ce qui rendait cette vue plus effroyable était que cette figure semblait être déjà la proie des vers, et que ses mains et son visage en laissaient voir les traces. On imagine bien aisément qu'un si hideux objet ne se regardait pas deux fois. Émilie, quand elle l'aperçut, laissa retomber le voile, et la terreur qu'elle avait eue l'empêcha d'y revenir. Si elle en eut le courage de regarder plus attentivement, son erreur et son effroi se seraient dissipés en même temps. Elle aurait reconnu que la figure était en cire. Cette histoire, quoique extraordinaire, n'est pas sans quelque exemple dans les annales de la dure servitude où la superstition monastique a souvent plongé le genre humain. Un membre de la maison d'Udolphe avait offensé en un point les prérogatives de l'Église. On le condamna à contempler plusieurs heures par jour l'image en cire d'un cadavre. Cette pénitence, qui devait servir à lui rappeler un sort inévitable, avait pour but de réprimer dans le marquis d'Udolphe un orgueil dont celui de Rome se trouvait choqué. Non seulement il subit sa pénitence, mais dans son testament il exigea de ses héritiers la conservation de la figure. Il mettait à ce prix la propriété d'un domaine et regardait comme très utile l'humiliante moralité que cette figure enseignait. Il l'avait fait encadrer dans la muraille de son appartement, mais aucun de ses héritiers n'imita une telle pénitence. En apprenant que la marquise de Villeroy était la sœur de M. Saint-Aubert, Émilie se sentit très diversement affectée. Au milieu de la tristesse que lui causait la mort prématurée de cette infortunée, elle se vit soulagée des conjectures pénibles où l'avait jetée la téméraire accession de Laurentini sur sa naissance et sur l'honneur de ses parents. Sa confiance dans les principes de Saint-Aubert ne lui permettait guère d'imaginer qu'il avait manqué à la délicatesse. Elle répugnait à se croire fille d'un autre que de celle qu'elle avait toujours aimée, respectée comme sa mère. Elle l'aurait cru difficilement, mais sa ressemblance avec la feu marquise, la conduite de Dorothée, les assertions de Laurentini, le mystérieux attachement de Saint-Aubert lui avaient inspiré des doutes que sa raison ne pouvait ni détruire ni confirmer. Elle s'en trouvait délivrée, et la conduite de son père s'expliquait. Son cœur n'était plus oppressé que par le malheur d'une parente aimable et par la terrible leçon que donnait la religieuse mourante. Trop d'indulgence pour ses premières passions avait conduit par degrés la signora Laurentini à un crime dont le seul nom dans sa jeunesse l'eût sûrement fait frémir d'horreur. Crime dont de longues années de pénitence n'avaient pu effacer le souvenir ni décharger sa conscience.